Chapitre 11 La petite lampe rouge. Une heure venait de sonner à l'église de Bradley lorsque M. Smith émergea de l'ombre d'une haie qui courait parallèlement à la façade est de la maison magique. Deux autres hommes également, cachés dans l'ombre, se levèrent et s'avancèrent à sa rencontre sur le chemin. « Je crois que j'ai découvert un bon endroit, » leur dit le policier à voix basse. « Et comme je le pensais, il y a des réseaux de fils électriques dans les haies et des sonneries aux murailles. Mais je crois avoir trouvé une brèche par où nous pourrons passer. » Il les conduisit à l'endroit d'où il était sorti de la haie. « Ah ! Voilà cependant un fil, » dit-il en touchant du doigt un très fin et délié linéament ressemblant à un rameau de plante flexible. Un de ses compagnons l'examina avec sa lampe de poche. « Bon, je peux y faire un raccord, » dit-il. Il prit une bobine de fil électrique et travailla quelques secondes. Après quoi, ils passèrent tous trois. « Oh, il doit y avoir un homme de garde par là, » dit M. Smith, « et j'ai l'idée qu'il y a aussi des fils tendus un peu au-dessus du sol. » Il avait fixé une sorte de tuyau à sa lampe de poche, de manière à n'en pas laisser disperser la lumière, et il explora soigneusement le terrain sur lequel ils avançaient. « Ah, voici un !» Les trois hommes aperçurent un léger fil courant à quelques centimètres de terre et soutenu de distance en distance par de petits pieux. « On place cela chaque soir, une fois la nuit venue, » dit M. Smith. « J'ai aperçu l'homme qu'il faisait l'autre soir. Il doit y en avoir un autre plus près de la maison. » En effet, ils virent bientôt un autre fil qu'ils sautèrent en évitant soigneusement de le toucher. « À terre !» ordonna vivement M. Smith. D'un moment, Ella n'aperçut rien d'anormal, mais après quelques secondes, l'ombre de la sentinelle parut, passa entre eux et la maison. Le gardien allait lentement, et malgré la faible clarté des étoiles, on put voir un instant le canon de son fusil briller dans l'ombre. Il fallut attendre qu'il eût tourné le coin de la maison. Alors ils traversèrent la pelouse. M. Smith portait un sac qu'il ouvrit alors et dont il sortit un lapin. « Mon pauvre ami, dit-il, il faut te sacrifier à la grande cause d'une enquête criminelle. » Il gravit les marches du perron et posa le lapin devant la porte. L'animal, effrayé, cherchait immédiatement à se dissimuler sous l'espace qu'il devinait entre le rideau métallique mobile et la porte elle-même. Mais à peine eut-il écarté deux des bizarres pendeloques qu'une lueur bleuâtre jaillit et le roula à terre, inanimé. M. Smith le ramassa. « Il est bien mort, » dit-il. « Maintenant à vous, Johnson. » Celui-ci mit des espadrilles et des gants de caoutchouc. Avec beaucoup de précautions pour ne pas se laisser toucher une autre partie du corps par le rideau mobile, il relia les fils en un faisceau, ce qui permettait d'atteindre la porte sans risquer le fâcheux contact. M. Smith, pourvu également de semelles de gants isolateurs, examina la serrure. Elle était d'un modèle très ordinaire et il ne leur fut pas difficile de la faire jouer. Le seul danger était que la porte fût en outre pourvue d'une barre ou d'une chaîne de sûreté. Mais les habitants de la maison, se fiant sans doute à leur protection électrique, n'avaient mis aucun autre obstacle à l'entrée. La porte ayant tourné silencieusement sur ses gonds, les détectives entrèrent dans le hall. « Restons un moment là, » dit le chef, « et examinons l'état des lieux. Espérons que la sentinelle ne remarquera pas que le rideau mobile est écarté lorsqu'elle repassera. » Ils ne découvrirent aucun nouveau piège électrique dans le hall, et M. Smith, y laissant ses deux subordonnés, gravit doucement les escaliers. À chaque étage, il s'arrêtait pour écouter, mais toute la maison était plongée dans le plus complet silence. Au troisième, il s'orienta. Il avait, à sa première visite, fait quelques observations qui lui permirent de se diriger sans trop d'hésitation vers la chambre où il avait interviewé le pauvre monsieur Moule. Il se rappelait qu'il y avait là une double porte. Il ouvrit la première, toute grande, sans le moindre bruit, puis tâta le loquet de la seconde. Elle s'ouvrit. Il l'entrebâilla seulement, mais cela lui suffit. Ce n'était pas la même pièce que celle où il avait vu le malade. Celle-ci était richement meublée en cabinet de travail, et devant un bureau de luxe, un homme était occupé à écrire. Il lui tournait le dos. Mais comme M. Smith poussait un peu plus la porte, l'homme tourna la tête, se leva et vint à la rencontre de son visiteur nocturne. Mais celui-ci n'eut que le temps d'entrevoir une figure entièrement masquée, car aussitôt que l'inconnu l'aperçut, il fit un geste et la pièce se trouva plongée dans l'obscurité la plus profonde. En même temps, la porte, mue par une force irrésistible, se referma, rejetant le détective dans le corridor. Là, changement de scène. De la lumière à profusion et à quelques pas, la face souriante du docteur Fall. « À quoi dois-je l'honneur de votre visite inopinée ?» demanda-t-il obséquieusement. « Bien, mon insatiable curiosité, » répondit froidement M. Smith. « Je désirais ardemment revoir ce pauvre M. Moule. » « Et comment l'avez-vous trouvé ?»« Malheureusement, je me suis trompé d'étage. Au lieu de trouver le malade, j'ai dérangé sans le vouloir un gentleman en train d'écrire, avec un masque sur le visage, ce qui ne doit pas être entièrement confortable. » Le docteur fronça du sourcil. « Je ne vous suis pas, » dit-il, comme s'il éprouvait quelque crainte pour l'état d'esprit de son interlocuteur. « Si vous suiviez dans cette chambre, » reprit M. Smith gaiement, « vous me comprendriez mieux. » À ce moment, un étrange bruit sourd retentit, accompagné d'une forte trépidation comme celle que produit le passage d'un camion à proximité. « Mais qu'est-ce que cela ?» demanda le détective. « Ben, cela, oh, c'est une des déplorables conséquences qu'il y a à bâtir une maison sur une vieille mine abandonnée, » répondit le docteur. « Mais en ce qui concerne votre bizarre hallucination de tout à l'heure, je serais fort heureux de vous désabuser. Vous ne vous êtes trompé ni d'étage ni de porte. » « Allons donc !» Le docteur alla droit à la double porte et l'ouvrit. Il n'y avait aucune lumière, mais le docteur tourna un commutateur et M. Smith se vit en effet dans la pièce même où il avait visité M. Moule. Elle n'avait pas changé. Il y avait toujours au centre le tapis bleu sur lequel se trouvait le lit et il y aperçut la face jaune du malade. M. Smith jeta un cri de surprise et se passa la main sur le front. « Vous voyez, reprit le docteur, que vous avez été victime d'un trouble passager. » « Peut-être le manque de sommeil. »« Bon, ça m'étonnerait. Enfin, mais puis-je visiter les chambres situées immédiatement au-dessus et au-dessous de celle-ci ?»« Bon, autant que vous voudrez. Au-dessus, c'est une chambre à provision. » Il le précéda à l'étage et, en effet, immédiatement au-dessus de la chambre de M. Moule, se trouvait une pièce où il n'y avait que des ballots d'épicerie. « Vous ne vous en servez guère, » observa M. Smith. « Oh, non, nous avons tellement de place. Bon, ben voyons maintenant au second. » En descendant, le même bruit trépidant qu'un instant auparavant se renouvela. « Oh, que c'est déplaisant, n'est-ce pas ?» remarqua le docteur. « Au début, cela m'alarmait fort, mais maintenant, je commence à m'y habituer. » La pièce, située au-dessous de celle qui avait tellement intrigué le docteur, était une chambre à coucher d'un meublement assez ordinaire. « Une chambre d'amis !» déclara Fall. M. Smith entra et inspecta soigneusement cette pièce. Il n'y aperçut rien d'anormal. Alors j'espère que vous voilà satisfait, reprit le docteur, et que vos deux compagnons ne s'impatientent pas trop dans le hall. Ah, vous les avez vus? Oui, quelques secondes après votre entrée, répondit gravement l'autre. C'est que, mon cher monsieur, nous n'employons pas ici de ces carillons qui épouvantent toute une maison. Lorsque la porte d'entrée tourne sur ses gonds, une petite ampoule rouge s'allume dans ma chambre, et c'est tout. Malheureusement, lorsque vous êtes entré, je me trouvais dans une pièce contiguë. Je n'aperçus la lumière rouge qu'en venant chercher un papier dont j'avais besoin, de sorte que j'exagère un peu en disant que je suis au courant de vos faits et gestes depuis que vous avez franchi le seuil, mais il s'en est fallu de peu. Je vous montrerai mon système avertisseur, si cela veut vous intéresser. J'en serais ravi. Monsieur Smith était vraiment curieux d'en savoir le plus possible sur l'organisation de l'étrange demeure. L'appartement du docteur se trouvait au premier étage, immédiatement au-dessus de la partie du hall la plus proche de la porte d'entrée. Il consistait en un cabinet de travail et une riche chambre à coucher. À côté du lit était placé un meuble cylindrique, pareil extérieurement à ces sortes de consoles employées pour supporter les plantes d'ornement. Regardez là-dedans, dit le docteur. L'objet était creux et, à quelque distance de son orifice, se voyait un petit carré de papier argenté. Ou plutôt, on eût dit du papier argenté, mais sur cette glace sans teint, se mouvaient, se dessinaient, allaient, venaient, en raccourci, deux personnages qui M. Smith n'eut pas de peine à reconnaître, ses agents Ella et Johnson. Vous voyez là une de mes inventions, déclara le docteur Fall. C'est un jeu de miroir qui condense toutes les images du hall et me les renvoie ici. C'est si sensible que je vois même ce qui se passe dans la demi-obscurité. Merci, dit M. Smith. Vous êtes très ingénieux. Il n'avait qu'à accepter sa défaite avec autant de grâce que possible, car évidemment il n'y avait rien à dire à ces excentriques procédés du docteur. Néanmoins, il restait intrigué. En descendant, Foll lui dit: Vous allez éprouver quelques difficultés à ouvrir la grande porte. Dans ce cas particulier, je crois que vous vous trompez, répondit Smith avec assurance. Le docteur alluma les lampes du hall et les deux agents s'approchèrent de leur chef. Nous avons laissé la porte entr'ouverte, expliqua Smith. C'est possible, répliqua le docteur, mais malgré cela, je crains que vous ne puissiez l'ouvrir sans mon aide. Et là, la tira de toutes ses forces, mais sans la faire pivoter d'un millimètre. Commande électrique, expliqua le docteur. Tous vos efforts réunis ne pourraient l'ébranler dans un sens ou dans l'autre. J'ai encore appliqué là une de mes bonnes idées. Il faudra que je la fasse breveter un de ces jours. Il prit alors une minuscule clé dans la poche de son gilet et l'introduisit dans un trou presque invisible du lourd panneau de chêne, et instantanément la porte s'ouvrit toute grande. Je vous souhaite une bonne nuit, dit Foll debout sur le seuil. J'espère avoir le plaisir de vous revoir. Soyez bien sûr que ce plaisir sera partagé, répondit M. Smith.